Bernard. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Libre Radio, la radio qui ne souffre aucun malentendu.
Voilà, voilà. Donc nous sommes en faux direct ce soir, le 25 novembre 2017, depuis le Spoutnik. Qu'est-ce donc le Spoutnik ? C'est le plus beau cinéma du monde. C'est ainsi en tout cas qu'il se définit. Nous, on est plutôt d'accord avec cette assertion. Alors, nous sommes au Spoutnik à l'occasion des rencontres cinématographiques Palestine. Filmer, c'est exister. Si je n'erre, c'est là la 6e édition de ce festival. Et nous sommes en compagnie de Bruno Fert, qui est photographe, pour son exposition qui est à cours en ce moment, donc dans le cadre de ce festival. Tout à côté, puisque c'est en face au Café des Volontaires. Si je ne me trompe.
C'est ça.
Alors bonjour à toi Bruno, bienvenue.
Bonjour, merci.
Merci de nous consacrer un petit moment parce que c'est vrai que c'était à brûle pour point. On est venu vers toi et immédiatement tu as donné ta disponibilité. On est ravis en tout cas que tu l'aies fait. Alors cette exposition s'appelle Les Absents si j'ai bien compris. Alors vas-y, dis-nous qui es-tu déjà et puis ensuite nous allons venir à l'exposition.
Donc moi je m'appelle Bruno, je suis photographe, je vis à Paris et dans les années 2000 quand j'ai commencé la photo, je voulais être photoreporter et à l'époque c'était la seconde intifada, donc je suis parti là-bas en Palestine pour couvrir pour les médias, pour faire du photojournalisme. J'ai passé beaucoup de temps, plusieurs années à faire des allées-venues et voilà, c'est un conflit qui m'a marqué et qui m'a beaucoup frustré aussi, j'ai jamais réussi vraiment à... Voilà, c'est en France ou en Europe, les gens disent ah, c'est compliqué, on n'y comprend rien, ils se battent tout le temps. Et voilà, j'avais envie de faire. J'avais l'impression que mes photos à l'époque, elles expliquaient rien du conflit, elles témoignaient même pas, elles illustraient la presse. Donc je suis rentré un petit peu frustré et meurtri par ce. Voilà, puis je suis passé à d'autres types de reportages et avec les années, mon style photographique a évolué. J'ai fait moins de presse, plus des projets documentaires, d'expositions, tout ça. Et là, j'ai eu envie de retourner en Palestine pour un peu corriger, voilà, faire ce que je n'avais pas réussi à faire dans les années 2000 quand j'étais plus jeune photographe. Voilà, et j'avais envie de témoigner, de retourner, de témoigner de la problématique des réfugiés palestiniens qui sont réfugiés depuis plus de 60 ans, depuis 1948. Et après quelques voyages de repérage dans les camps de réfugiés, qui sont de véritables villes aujourd'hui en Palestine, je me suis tourné plutôt, j'ai tourné mon appareil photo, non pas vers les réfugiés, mais vers l'endroit d'où ils viennent. Donc je suis parti avec un GPS et d'anciennes cartes à la recherche des traces et des vestiges des villes et des villages palestiniens qui ont disparu en 1948.
D'accord, ça c'est une problématique qui touche beaucoup, cette idée de la transmission de la mémoire, de la refabrication d'une mémoire que l'on sent bien, que certaines personnes souhaitent abolir ou en tout cas biaiser pour le moins.
Oui, c'est vrai, dans cette guerre entre juifs et arabes en 1948, bon, déjà il faut comprendre que 90% de la population arabe du territoire qui allait devenir Israël a fui, a été expulsé, les maisons ont disparu, les archives photographiques, les bibliothèques, tout a un peu disparu dans ce tourbillon, les gens sont partis en pensant en revenir, et voilà, moi je suis parti à la recherche d'un pays disparu, c'était un espèce de jeu de piste, parce que je suis vraiment parti avec des listes de coordonnées GPS, des suites de chiffres un peu abstraits, et je savais jamais sur quoi j'allais tomber, et je suis tombé sur des villages fantômes, c'était très beau à photographier, très... poétique et en même temps ça avait du sens, c'était pas photographier des belles ruines pour faire des belles images, ça avait vraiment un sens et j'ai l'impression de faire un voyage sur un territoire aussi mais un voyage dans le temps, un voyage à travers un pays qui avait disparu.
Ouais. Alors voilà justement ça allait être le sens de ma question, quand tu t'es rendu sur ces lieux-là et que tu prends les photos, est-ce que tu es plus proche de Pripyat, la ville fantôme à côté de Tchernobyl parce que voilà les gens ont dû partir. Ça a été laissé à l'abandon à la minute, c'est extrêmement douloureux, touchant. Ou est-ce que tu es plus proche des pyramides? C'est un travail historique plutôt dont tu rends compte. Est-ce que tu es un peu plus proche de Pripyat ou des pyramides ou des deux ou de rien du tout?
Je pense que c'est un peu entre les deux. Dans l'ambiance, je suis plus proche des pyramides, je suis au Moyen-Orient. Après, c'est quand même très loin des pyramides. C'est vrai que les gens sont partis, alors ils sont partis il y a 60 ans, les situations sont très différentes. Dans un même village, les gens ont été expulsés de force, d'autres sont partis avant. Dans une même maison, parfois, une partie de la famille est allée se réfugier à Beyrouth quelques mois avant l'arrivée des soldats, des combats. D'autres ont essayé de garder coûte que coûte la maison. Donc, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé. S'il y a quelques témoignages, il y a quelques livres d'historiens, de témoignages de Palestiniens, mais en tout cas, on peut dire que les gens ont été expulsés parce qu'ils n'ont jamais pu revenir. Aujourd'hui, ces bâtiments ont des fois été squattés. Il y a des traces d'autres vies, de personnages qui sont passés, de reliefs. C'est assez mystérieux. Par exemple, il y a une photo que j'aime beaucoup, qui est une des premières que j'ai faites, c'est l'église d'Albassa. Albassa, c'est une bourgade qui a disparu, dont le nom a disparu, plus personne ne se souvient. C'était dans le nord d'Israël, près du Liban. Et il reste toujours son église dans une zone industrielle d'une ville qui s'appelle aujourd'hui Shlomi. Et quand vous rentrez dans cette église, quand je suis rentré, bon, on est saisi par une scène, c'est très beau, le soleil rentre par les fenêtres de l'église et il reste une table avec un crucifix dessus, un calice et une petite Bible, comme si des gens venaient de temps en temps célébrer, faire quelques offices, sûrement des Arabes israéliens, ils reviennent, je ne sais pas. Ouais. C'est mystérieux, mais on a l'impression que voilà, c'est les quelques traces des... Voilà, il reste des fantômes des fois, voilà, qui reviennent.
Ouais, voilà. Excellent. Alors justement, comment est-ce que tu es reçu lorsque tu te rends là-bas par la population et par les autorités? Est-ce que lorsqu'elles apprennent que tu photographies, parce que j'imagine que tu vas quand même un peu t'annoncer ou pas, tu vas nous dire, mais...
Pas du tout, c'est parfois assez compliqué de travailler dans les territoires palestiniens. Au retour, au départ, quand on quitte Israël et qu'on a été surtout à Gaza, mais aussi dans les territoires palestiniens, on peut avoir des interrogatoires un peu longs, des fouilles un peu. Si on a été juste en Israël, bon, j'étais même parfois un peu vexé parce qu'on me souhaitait juste bon voyage, monsieur, donc j'étais un peu là, mais vous savez qui je suis, vous savez ce que j'ai fait. Et non, rien du tout. Donc non, c'est ça. Par contre, avec la population, oui, il y a eu des rencontres assez étonnantes. C'est assez touchant, enfin c'est assez triste de voir que souvent j'ai demandé mon chemin, j'ai cherché les villes en demandant leur nom. La plupart des gens ont oublié ces noms, ces lieux n'existent plus parce qu'on ne peut plus les nommer. Après il y a des gens que je connaissais, il y a un agriculteur avec qui j'ai pas pu échanger un mot parce qu'on n'avait pas de langue commune, mais quand j'ai prononcé le nom du village, c'était un agriculteur, donc il connaissait la terre. Et il m'a amené dans le cimetière de tout ce qui restait de ce petit village qui s'appelait Cyrine. Et dans cette grande zone entièrement cultivée, c'était la seule parcelle de terre où on devinait d'anciennes tombes qui n'avaient pas été recouvertes par des cultures. Mmh. Et on imagine qu'il y a eu parfois un certain respect des agriculteurs qui travaillent la terre pour ne pas aller labourer par-dessus des tombes.
Bien sûr, ouais, tout à fait. Alors justement, quand on est au devant de ces rencontres singulière et touchante que tu as fait, à quel moment est-ce qu'on dit je prends la photo? Est-ce qu'on discute avec la personne avant? Voilà, bonjour, je suis photographe. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que cette chose se fait pour que la personne, au bout du compte, ce soit finalement elle qui sollicite la photo plutôt que ce soit une photo que tu prends toi? Enfin, dans quel sens ça va?
Dans les projets, dans la plupart des projets où les personnes sont vraiment les sujets des photos, bien sûr, il faut discuter, se faire accepter que la personne soit complice du portrait ou de la photo. Là, c'est plutôt des photos de paysages, des photos de paysages en ruine. Quand il y a des êtres humains dans les photos, ça arrive, mais c'est plutôt des silhouettes qui passent au fond de l'image. Donc là, en général, j'ai pas forcément eu de contact avec les silhouettes qu'on voit dans les photos. Dans une ruine, on voit tout à fait dans un coin de la photo une mariée qui est en train de sortir de l'image, un peu comme un fantôme. En fait, cette mariée, elle était en train de se faire photographier avec son futur époux pour faire un album de mariage, et les ruines, c'est romantique, donc on va faire les photos là-bas. Eux, je leur ai pas parlé du projet, et ils sont elle est toute petite dans la photo, elle joue pas vraiment son rôle, elle a le rôle d'un fantôme, alors que... voilà, c'est pas un projet, ouais, où j'ai vraiment
photographié. C'est pas des portraits.
Voilà, j'ai pas photographié les gens pour...
Mais alors, j'imagine qu'à chaque photo que tu fais, quelque part, ça te change. Tu sais, un peu comme ce faisceau lumineux qui est influencé par des choses que ce faisceau rencontre. J'imagine que toi, à chaque fois que tu prends une photo d'un paysage, que tu rends une atmosphère par le biais de cette image-là, quelque part, ça te change, ça te transforme, ça te touche. De quelle manière ?
Je suis plutôt touché par quand j'ai fait ce travail, je visitais ces lieux, je les découvrais déjà, je ne savais pas du tout sur quoi j'allais tomber à chaque... Et donc j'étais ému, et c'est plutôt... parce que en visitant ces lieux, bon, il y a le lieu lui-même, il y a le vent, la poussière, la solitude, l'atmosphère qui peut vous toucher, et parfois dans la photo ça n'a rien du tout, donc la photo c'est en deux dimensions, il n'y a plus le son, il n'y a plus la poussière, il n'y a plus le vent, donc il faut trouver un peu des astuces de photographe, travailler très tôt le matin avec des lumières un peu spéciales pour pouvoir accentuer, rendre une certaine atmosphère de qui correspond à l'émotion qu'on a ressentie. Des fois ça marche, des fois moins bien, et quand ça marche on est content quand on revient avec une photo et on ressent la même chose que ce qu'on a ressenti sur ce lieu avec tout ce qu'on sait et avec tout ce que je lisais moi sur cette guerre. Voilà.
Et alors le matériel que tu utilises et puis le type de photo que tu prends, est-ce que ça a à voir avec justement le sujet que tu opères ? Je veux dire, est-ce que par exemple on va choisir l'argentique pour certains paysages parce que ça a à voir avec une certaine forme de passé, qu'on veut un grain ou qu'on veut quelque chose ? Est-ce que là il y a des choses qui se jouent également en termes de matériel ?
Moi je venais un peu j'avais parcouru la région en tant que reporter où il faut être très rapide et on fonctionne à l'instinct. J'avais pas trop eu de succès, je suis sûrement beaucoup trop lent comme photographe, donc comme reporter ça marchait pas trop. Là j'y suis revenu quelques années après pour réessayer de parler de ce conflit, mais alors avec un tout autre procédé. J'avais un gros appareil argentique très très lent pour photographier les paysages en moyen format argentique, un trépied, un escabeau. Je mettais à peu près, 45 minutes pour faire la photo. Je prenais mon temps. Donc voilà, c'était. Et là, c'est ma manière d'opérer par rapport à ce que je voulais faire. Et voilà, je crois que je suis plutôt un photographe lent qu'un.
La lenteur a ses vertus. Hein,
voilà, oui.
Absolument. Ouais, d'accord, donc c'est plutôt ça. Alors, revenons-en maintenant, stricto sensus, à cette exposition. Donc, les absents. Qui sont-ils, ces absents ?
Alors les absents, c'est ceux qui sont absents du cadre des photographies, qui ont dû quitter leur terre en 1948. Et voilà, c'est ceux que j'ai photographiés et on ne les voit pas puisqu'ils sont absents.
Voilà.
Mais juridiquement aussi, en Israël, tous ces biens, toutes ces maisons en ruine sont définis comme le bien des absents. Et il y a eu une loi dans les années 50 qui s'appelle, une suite de lois qui s'appelle les lois des biens des absents, avec une administration dédiée qui est là pour gérer ces terres et ce patrimoine. Donc c'est une notion juridique, même en Israël, le bien des absents.
D'accord. Voilà. Alors cette exposition, elle a cours ici à Genève, donc au Café des Volontaires. C'est en face de l'usine, tout près justement du festival des rencontres cinématographiques Palestine Film, et c'est existé. On y accède gratuitement. Les toiles sont... Comment ça se passe techniquement ? On peut y aller à tout moment ?
Alors, on peut y aller à tout moment. Il faut regarder juste les horaires d'ouverture du
bistrot.
Ouais. Voilà, aller voir des... Donc, vous avez toute une programmation fantastique de films. Et entre deux films, vous pouvez aller vous restaurer au Café des Volontaires et voir ces photos. Il y a un livre aussi qui est en vente là-bas. Voilà, où on peut le commander aux éditions du Bec en l'air sur leur site, et sinon il est en vente au Café des Volontaires. L'exposition après continue à Genève à la librairie arabe
à l'ICAM, à l'Olivier pardon,
c'est ça, je crois,
je pense que ça doit être à l'Olivier, ouais. C'est à la rue l'ICAM, l'Olivier, c'est à la rue, le nom m'échappe maintenant, on a fait une interview récemment là-bas,
Fribourg.
La rue Fribourg. Merci Igor. Ah, la technique, c'est Igor.
Pardon, à l'Olivier rue Fribourg.
Ah, donc à la librairie de l'Olivier. Donc l'exposition, les absents. C'est difficile de rendre compte justement d'une mémoire des absents. Il faut la fabriquer d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Tu l'as dit un petit peu en saisissant avec ces images, mais qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui fait que cette mémoire-là plus qu'une autre ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait se tromper. Et c'est la difficulté. Et du coup, qu'est-ce qu'on va saisir plutôt qu'autre chose dont on pense que c'est ça, la mémoire, et c'est effectivement ça qui a habité cet espace. Je ne sais pas si ma question était claire.
Alors peut-être il faudrait préciser.
Alors, pour, dans mon esprit, un lieu qui est un lieu de mémoire évidé, c'est-à-dire qui a été en quelque sorte siphonné, en tout cas nettoyé de cette mémoire-là, a pu accueillir différentes mémoires successivement, peut-être à dessein. C'est-à-dire qu'on peut faire d'un endroit le lieu d'une propagande, le lieu de quelque chose d'autre que la mémoire originelle de cet espace-là. Et je me demandais, toi, quand tu retraces, quand tu vas pas après pas dans le passé, eh bien, à quel moment est-ce que tu dis, voilà, pour moi, cet espace-là, ce lieu-là, il correspond à cette mémoire-là plutôt qu'à celle-là.
Alors, c'est sûr, dans ces territoires, dans ce pays, il y a des strates de mémoire superposées qui remontent à loin. Et il y a aussi énormément de ruines différentes. Et il y a des moments où j'ai eu des doutes. Je ne savais pas tellement sur quoi je tombais. Donc, j'ai demandé aux passants, mais alors, vous savez ce que c'est que cette ruine? Et en fait, souvent, à la gêne, les gens savent bien reconnaître ces ruines. Et les Israéliens me disaient, non, ça, c'est très, très vieux. Je lui dis, non, mais je vous demande pas si c'est vieux. Je vous demande, est-ce que vous savez ce que c'est que ce bâtiment? Et les gens étaient gênés. Ou bien d'autres m'ont dit, mais vous faites un travail sur ça, mais c'est, voilà, c'est la face noire de l'histoire du pays.
C'est ça, c'est compliqué. Prenons un exemple, Biblos, hein, cette ville dont on dit qu'elle a 6000 ans d'existence. Effectivement, on voit là carrément les différentes couches des différentes civilisations qui ont habité cet espace-là. Et au bout du compte, on ne sait plus quelle ruine a servi à construire quelle autre ruine et à quel moment cette histoire s'encastre, se distingue, se singularise ou se confond.
Alors les ruines sont mêlées, oui. Par exemple, j'ai photographié un village palestinien qui a été effectivement vidé de ses habitants en 1948, qui s'appelle Majdal Yaba. Mais tout ce qui reste de ce village, la plupart des maisons récentes de 1948 qui sont en béton ont été détruites. Mais finalement, tout ce qu'il en reste, c'est les vestiges du château croisé qui était au centre du village et qui servait de bergerie aux gens du village. Donc d'accord. Oui, les vestiges de différentes périodes sont superposés. Oui.
Ouais. Cette exposition, donc elle a cours jusqu'au 29, elle a commencé le 23. As-tu déjà eu des retours et si oui, lesquels? Comment les gens ont visité cette exposition?
Alors moi je suis arrivé cet après-midi,
les on gens pas
qui
eu l'occasion.
Visiter l'expo sont les gens qui viennent à ce festival, qui sont quand même acquis à la cause palestinienne. Moi j'aime bien que cette expo soit montrée aussi à un plus large public, parce que c'est un témoignage poétique sur une problématique de la région qui est encore très sensible aujourd'hui. Voilà, donc vous pouvez la voir jusqu'au 2 au Café des Volontaires. Et ça y est, j'ai trouvé jusqu'au 29 décembre à la librairie L'Olivier, 5 rue de Fribourg.
Voilà, c'est ça. C'est bien la librairie de L'Olivier qui est une fantastique librairie avec un très bel espace d'exposition. Je ne sais pas si tu la connais déjà.
Non.
Alors tu verras, tu seras absolument très bien reçu là-bas. Et puis c'est un espace qui est fantastique. Y a-t-il l'occasion, les visiteuses et les visiteurs auront-elles et auront-ils l'occasion de te rencontrer ici ou là? Y a-t-il quelques activités peut-être de prévues tout au long de cette exposition?
Alors je suis arrivé aujourd'hui, je suis encore là demain, mais je dois...
Après tu as d'autres activités,
voilà.
D'accord. Alors comment est-ce qu'on retrouve par exemple ton travail? Est-ce que tu as un site internet ou...
Alors on peut le retrouver sur mon site brunofert.com, Fert, F-E-R-T, donc brunofert.com, et le livre surtout sur le site les éditions Le Bec en l'air, lebecenlair.com j'imagine, ça se trouve facilement et on peut tout à fait acheter ce livre en ligne. Voilà, c'est un livre avec des textes d'Elias, un très très beau texte d'Elias Sambar qui a été écrit pour ce livre.
D'accord, et alors toi-même, quand est-ce que tu repars? Où? Quel est ton prochain sujet?
Alors maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je travaille toujours sur un thème lié au foyer, aux maisons, mais j'ai photographié les maisons, les cabanes, les tentes, l'intérieur des tentes et des cabanes des réfugiés en Europe. J'ai commencé à Calais et puis après j'ai fait un peu la Grèce, l'Italie, l'Allemagne. Et je me suis concentré sur les intérieurs que se construisent le temps d'une étape, les réfugiés, comment ils les décorent.
D'accord.
Voilà, c'est un projet qui s'appelle Refuge, qui a été exposé à Paris, mais là, l'expo vient de se terminer. Il y en aura sûrement pas mal d'autres.
Ouais. Et les intérieurs avec les habitants ou justement là aussi sans les...
Sans les habitants. Les habitants sont photographiés à côté, mais comme en studio, comme on photographie des personnalités, pas comme... voilà, il y a une photo de la famille ou de la personne qui habite le conteneur, la cabane ou la tente, photographiée avec un fond gris en studio, et puis après une photo en couleur... de l'intérieur de ce foyer.
Ouais. Est-ce à dire que la mémoire et l'histoire, pour toi, c'est quelque chose, c'est une des centralités ? Parce que là aussi, quelque part, on peut faire l'analogie. Il y a de l'histoire des gens dans la décoration et la mise en place
les gens
des intérieurs.
Oui, s'expriment tous par rapport. Je pense que nos intérieurs, le mien comme ceux des migrants, expriment un peu notre personnalité et aussi nos moyens et notre façon de vivre à un moment donné, les conditions de. Voilà. C'est, ouais. Et je pense que c'est une. Oui, à travers leurs intérieurs, ils vont reconstituer un peu de chez eux, de leur foyer perdu, de. C'est assez étonnant, c'est très, enfin, je suis tombé par exemple à Calais, dans ce qu'on appelait la jungle de Calais, sur des intérieurs extrêmement beaux, colorés, décorés, voilà, j'étais très surpris et j'ai voulu partager ça, c'est parti, c'est un projet qui a commencé il y a quelques années à Calais, et depuis j'ai fait pas mal de sites.
D'accord, c'est-à-dire, pour en terminer, dernière question, ça veut dire que quand on est photographe, c'est qu'on est d'abord curieux et qu'on a envie de satisfaire sa curiosité, ou en tout cas de la remplir et puis de la montrer à autrui. Parce que ça, c'est
oui,
un des moteurs.
C'est un moteur, ouais. Oui, je crois que je n'oserais pas aller taper à la porte des réfugiés, je suis peut-être trop timide, c'est un prétexte pour aller voir les gens, pour leur parler. Et après, les gens vous confient leur histoire et on se sent chargé d'une responsabilité de la transmettre. Et ouais. Voilà.
Très bien. Bruno Fert, merci beaucoup pour ta disponibilité et puis bon courage pour la suite de tes voyages et de tes photographies. On le rappelle, l'exposition, ça s'appelle Les Absents, c'est au Café des Volontaires en face de l'usine ici à Genève. C'est sur place jusqu'au 29 novembre, donc dans le cadre du festival des rencontres cinématographiques Palestine, Fumer, c'est exister, et puis ensuite à l'ICAM, la librairie de l'Olivier, au route de chemin de Fribourg.
C'est ça, exactement.
Très bien, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et bonne soirée. Attends.
À bientôt. Voilà, salut. Bientôt.
Petite pause musicale et puis on revient pour la suite des opérations.
So why don't you blow it?